Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Cette émission qui, comme tous les mercredis, vous parle de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Nos invités du jour, nous commencerons avec 3 Jacques, J-A-C, les jeunes ambassadeurs et ambassadrices culturelles de la ville de Trappes. Ils viendront vous expliquer ce que sont les Jacques justement et vous inviter à une projection de débat qu'ils organisent le vendredi 26 novembre à 20h30 au cinéma Le Grenier à Sel à Trappes. Tania Aublasnet, Philippe Tellier et Laurent Sainte-Farde-Garneau seront également nos invités. Nous parlerons de la 15e édition du Festival Alimentaire, une projection débat. Demain à 20h15 au Ciné 7 d'Elancourt, le film qui vous sera proposé, c'est le film documentaire Sur le champ. Les chroniques habituelles de Marmite fait son actu sont au rendez-vous, le cinéma avec Gaël Pinault, responsable du cinéma Le Grenier à Sel à Trappes, la minute conso de Pierre Joannet de l'UFC Que Choisir, il nous parlera d'une enquête sur la livraison de colis et vous verrez, c'est pas joli joli. Le journal d'info, c'est à 17h30. Comme à notre habitude, on commence cette émission en musique et on revient juste après pour parler cinéma, musique.
Agile comme une liane, tu passes en moi sans ennui. T'es là où je m'abandonne, retrouve mon harmonie. Moment de repli, je m'élance, laissez pour le tempo. Moment de répit, un pas de danse.
Écoutez, Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, on passe au cinéma.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaël.
Avec Gaël Pinault, responsable du cinéma de proximité, Le Grenier à sel attrape. Salut Gaël.
Salut Noradine, bonjour à toutes et à tous.
Comme chaque semaine, Gaël, bah, tu nous parles d'abord de l'actualité hein, du cinéma Le Grenier à sel, parce que ce n'est pas uniquement des projections de films, il y a plein de choses qui s'y font. Et ensuite, tu nous fais un petit tour des films qui vont être projetés cette semaine à partir d'aujourd'hui, puisque c'est le mercredi que se font les sorties.
Exactement. Et donc, je vous ai parlé qu'on avait repris les séances scolaires. Donc, on a vu différents publics scolaires. On a vu des petits, on a vu des collégiens, on a vu des lycéens. Donc, on est vraiment contents. On avait un petit peu... Bon, je l'ai déjà dit, je me répète. Voilà. Effectivement, on est content de reprendre ça. On reprend nos marques, les élèves aussi. Tout le monde est content de revenir et ça se passe très bien. On passe à une très bonne rentrée. Bien, bien chargée puisque, évidemment, Covid oblige. On ne remplit pas la salle. Donc, on doit démultiplier les séances. Ça nous surcharge pas mal. Alors, je vais quand même vous revenir un petit peu sur ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait un petit événement, puisqu'il y avait le dimanche dernier, le 14, c'était la journée européenne du cinéma art et essai. Donc, dans les cinémas art et essai d'Europe, on a mis en avant la création de films européens. Et nous avions la chance d'avoir l'avant-première du nouveau film de Pedro Almodovar. Et il avait enregistré une petite vidéo de 5 minutes pour présenter son film, pour introduire son film. Et donc, on a eu beaucoup de monde à cette séance et nous en sommes très contents. Voilà pour la semaine dernière. Et j'enchaîne sur cette semaine. Cette semaine, pour commencer, je vais parler du film jeune public, parce qu'en général, je le garde pour la fin. Et aujourd'hui, je vais en parler en premier. On a Run des blocs. C'est un film distribué par Disney, par les studios Disney. Et c'est l'histoire. Ça se passe dans un futur proche. C'est assez moderne, avec tous les outils numériques qu'on peut imaginer. Et donc, dans un avenir proche, il y a tout le monde, tous les enfants, tous les jeunes ont des copains numériques. C'est un petit robot qui les accompagne et qui fait office de téléphone portable aujourd'hui, puisque on parle des réseaux sociaux, etc., dans ce film. Et c'est très drôle parce que notre héros Barney a un problème avec son robot. Son robot débloque. Il s'appelle Ron et le film s'appelle Ron débloque. Donc là, on était vraiment dans le futur, la modernité. Et on enchaîne maintenant avec un film qui s'appelle The French Dispatch. Et là, on revient un petit peu en arrière dans le passé. C'est un film qui a un côté un petit peu, un look un petit peu désuet.
On entend d'ailleurs la bande son du film.
Exactement, Ronan a été chercher la musique du film. C'est une comédie réalisée par Wes Anderson, dans laquelle on retrouve une ribambelle d'acteurs qu'on aime bien, Bill Murray, Benicio Del Toro, Timothée Chalamet, Lina Koudry, la française, et ça se passe en France. L'histoire, c'est l'histoire d'un journal qui est en France et on a plein de petites histoires qui sont tirées de ce reportage. Et donc, on est dans le 20e siècle et c'est assez difficile à raconter parce que Wes Anderson, il est assez foufou. En tout cas, ce film était présenté, était en sélection officielle au Festival de Cannes et ça nous entraîne sur le prochain film qui était aussi à Cannes et qui s'appelle Les Olympiades. Ce film-là est une romance de Jacques Audiard qui ne nous a pas habitués aux romances. Et là, on est dans le 13e arrondissement à Paris et on a trois acteurs, deux femmes et un jeune homme qui se croisent, qui sont amis, amants, des fois les deux. On est sur...
Ça s'appelle l'ambiguïté.
C'est un film ambigu qui est tourné donc à Paris dans le 13e en noir et blanc par Jacques Audiard.
Et ça marche alors ?
Et ça marche.
Qu'est-ce que t'en as pensé de ce film ?
Qu'est-ce que j'en ai pensé
vu
de ce film ?
Vu qu'il n'a pas l'habitude alors, de faire ce genre.
Ben ça reste quand même, un petit peu sombre puisqu'il est, alors bon, il est en noir et blanc, d'accord, mais Audiard, il a toujours ce côté un petit peu brut, un petit peu sombre, parfois violent. Là, on ne retrouve pas vraiment de violence dans ce film-là, mais il a quand même dans ses autres films, il est plutôt un peu trash. J'exagère un peu en disant trash, pardon, je ne sais pas trouver le mot. J'avais pas prévu d'en parler autant, c'est pour ça, du coup...
Je t'ai perturbé, ouais, je t'ai posé une question.
J'étais prêt à enchaîner sur le film d'après.
Allez, enchaîne.
J'enchaîne. Le mois de novembre, Tous les ans, nous célébrons les films documentaires, puisque dans les cinémas, les médiathèques et d'autres salles culturelles, il y a le mois du film documentaire. Ce mois-ci, cette année, au mois de novembre, on en a passé déjà quelques-uns. Il nous en reste encore. Nous avons cette semaine Notturno, qui est un film franco-italien ou italo-français, qui a été tourné pendant 3 années le long des frontières du Moyen-Orient, Irak, Kurdistan, Syrie, Liban. Et donc, on voit le quotidien de, des personnes qui habitent là-bas, l'humanité qu'il y a, qui se réveille aussi. On est, comment les gens vivent dans cette zone de violence et de destruction. Ça tombe bien que je parle du mode documentaire et que je parle de ce film, parce que ce film était présenté cet été dans un festival qui s'appelle les États généraux du film documentaire. C'était à Lussas en Ardèche, et nous avons justement une petite surprise qui vient de Lussas aussi, puisque des jeunes trappistes sont allés avec Aurélie, collègue du cinéma notamment, et Émilie du service jeunesse sont partis à Lussas découvrir des films, dont Notturno et un autre dont je leur laisse la parole pour en parler.
Ouais, parce que tu me facilites, quelle belle transition, Gaël. Alors, du coup, pour conclure sur ce que tu viens de dire, on pourra retrouver toute la programmation, comme chaque semaine, sur le site internet du Grenier à Sel, donc cinemagreniersel.com.
Oui, c'est ça, merci. Voilà.
Donc, les jeunes trappistes en question dont tu as parlé, ils sont là avec nous, on va les présenter. Il y a Erwin, bonjour Erwin.
Bonjour.
Il y a Jenny, bonjour Jenny.
Bonjour.
Il y a Bilal, bonjour Bilal.
Bonjour.
Et il y a Alexandre qui n'est pas avec nous, mais qui vous avait accompagné sur ses, du côté de Lussas, donc en Ardèche, pour ses états généraux du film documentaire. Et donc, vous êtes 3 Jacques sur 4. Donc, les Jacques, ce sont les jeunes ambassadeurs ou ambassadrices culturelles de la ville de Trappes. Alors, d'abord, peut-être une question avant de rentrer dans le détail de ce que sont les Jacques. Comment vous avez participé à ce projet? Comment vous avez connu l'existence des Jacques qui vous ont emmené du coup sur les routes de France cet été? Qui répond à la première question? Erwin.
Alors, en fait, c'est Aurélie qui nous a contactés un à un.
Donc Aurélie du Grenier à Sel, ouais.
Parce qu'elle savait qu'on s'intéressait au cinéma, et du coup, elle nous a contactés en se disant que ça pourrait être une opportunité pour nous de vivre une nouvelle expérience en rapport au cinéma, sachant que on s'y intéressait. Mmh.
Donc c'est comme ça que vous avez été approchés.
Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, quand Aurélie est venue vous voir, vous a dit, ça peut être sympa d'aller voir plusieurs films documentaires, puis d'en sélectionner un pour l'amener à Trappes après? Bilal.
Déjà, Erwin et moi, on a un statut particulier. On était des anciens élèves du lycée de la Plaine de Nofle en option cinéma.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on avait déjà un certain bagage au niveau du cinéma. Et là, on avait la chance de pouvoir participer à un festival du film documentaire, c'est-à-dire une partie, on peut dire, assez de niche quand même dans l'industrie du cinéma en général. Mmh. C'est un peu le parent pauvre. Et ça nous a permis de voir des films qu'on n'avait pas forcément l'occasion ou la possibilité de voir. En temps normal, c'est pas des films qu'on passe à la télé. C'est des films qu'on, certes, on peut trouver sur des chaînes comme Arte, mais c'est pas des films dits grand public.
Alors justement, vous êtes parti cet été, vous étiez accompagné, vous l'avez dit, d'Aurélie. Il y a également Émilie qui est avec nous dans le studio du service jeunesse de la ville de Trappes. Il y avait également une troisième personne qui vous a accompagné, puisque vous parliez un instant du lycée de la Plaine de Nofle. Il y a une enseignante qui vous a accompagné.
Alors oui, c'est Marie-Agnès Chenu qui est prof d'option cinéma à la Plaine de Nofle et aussi prof de français, qui nous a accompagné, qui a été contactée par Aurélie, car toutes les deux sont en contact, travaillent ensemble par rapport à les projections au Grenier à Sel et aussi à l'option cinéma. Voilà.
Alors justement, quel était votre rôle exact sur place, Jenny? Qu'est-ce que vous deviez faire? Vous deviez regarder les films documentaires, mais il y avait un peu de travail. Vous n'êtes pas juste parti en vacances 4 jours pour découvrir des films, découvrir le paysage, même si ça faisait partie certainement du voyage. Hein. Mais voilà, quel était votre rôle exact là-bas, sur place?
Sur place, c'était d'abord de découvrir un peu ce qu'était un festival, et par la suite, lorsqu'on rentre à Trappes, ce serait de proposer, d'expliquer ce qu'on a vécu, et pour expliquer quel est notre rôle en tant que jeune ambassadeur culturel. Et à partir des différents films qu'on a pu voir au festival, c'était de justement, à partir de ce qu'on a vu, proposer un film qui nous a plu, le coup de cœur. Et c'est notamment celui qu'on a décidé de choisir, justement, pour la semaine prochaine, le 25 novembre.
Le 26 novembre.
26 novembre, excusez-moi.
Et c'est déjà bien. Donc vous avez réussi à trouver un film. On va en parler dans quelques instants. Alors du coup, comment ça se passait les journées là ? Qui me raconte un peu une journée ? Vous avez regardé combien de documentaires ? Est-ce que vous avez regardé 15, 20, 25 documentaires par jour ? Non, c'est exagéré. Vous avez regardé combien de documentaires ? Et voilà, est-ce que c'était facile à suivre ? Comment vous avez fait après pour travailler autour de ces documentaires ? Erwin.
Alors, en tout, on en a regardé une douzaine et donc les journées étaient découpées en trois parties, c'est-à-dire que le matin, on avait un ou des films, mmh. Ensuite, il y avait une nouvelle projection l'après-midi et le soir, il y avait un film qui était projeté en plein air. Et du coup, donc ça faisait beaucoup. Et oui, on enchaînait tous les films pendant trois jours. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la première journée, parce que les films documentaires, il y avait beaucoup de sujets qui étaient très durs. Et la première journée, on s'est un peu pris un parpaing. Et du coup...
Un parpaing virtuel.
Voilà, un parpaing virtuel.
Pas un vrai parpaing.
Oui, non. Et le soir, on était tellement... pas choqués, mais on s'était pris tellement de films et d'infos que le soir, on a dû faire une pause. Et après, les autres journées, on a tout fait. Mais c'est vrai que la première journée, ça a été particulièrement dur. Mmh.
Alors justement, quelle était la méthode après ? Comment vous faisiez une fois que vous avez regardé des films ? Vous aviez dans votre tête quand même que vous deviez en sélectionner un. Vous en avez sélectionné un, vous en avez choisi un, donc qui va être diffusé au Grenier à Sel le 26 novembre prochain à 20h30. On invite tous les auditeurs, toutes les auditrices bien sûr à venir à cette soirée. Voilà, quelle était votre méthode ? Est-ce que c'était juste après chaque film vous faites un petit débrief ? Ou est-ce que c'était en fin de journée ? Et puis voilà, est-ce qu'il y a eu des débats un peu houleux pour savoir quel film était le meilleur ?
Alors, déjà, on avait certes une programmation qui a été faite par Aurélie en amont, mais on n'a pas forcément regardé tous les films de la programmation.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on n'était pas tous déjà aux mêmes projections. Il y en avait qui pouvaient voir un film et d'autres un autre film. Et quand on regardait des films communs, alors certes, là, on pouvait partager, débattre, donner, dire qu'on avait aimé ou pas, qu'est-ce qui nous avait déplu. Et du coup, ça, on le faisait généralement, si on parlait des films du matin, on le faisait à la pause du midi, au moment de manger. Ça était un moment assez convivial, on pouvait manger qu'est-ce qu'on avait préparé au gîte, et ensuite, on discutait. Pareil pour à 14h, on prenait notre goûter, on discutait des films qu'on avait vus, et le soir, au moment de manger, on discutait de tout cela à table. C'est vrai que généralement, on parlait à la fois de films et de nourriture durant ce séjour.
Oui, vous parliez de films de façon agréable, on dira.
Voilà.
Bah, c'est plutôt... Mais en tout cas, ça veut dire que les auditeurs et les auditrices comprennent que il y avait un vrai travail quand même, hein, parce que vous deviez toujours garder le petit côté critique en regardant en même temps un film documentaire et puis en se disant, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ce film, comment je vais pouvoir le défendre si je l'aime bien, ou peut-être sortir des critiques un peu différentes. Voilà, du coup, il y avait un vrai travail quand même de réflexion.
Oui, complètement. C'était pas des vacances du tout. On avait un travail à faire. On devait représenter déjà la ville de Trappes dans ces festivals. Nous, c'était le festival de Lussas. Et aussi, il fallait ramener soit un film, soit une personne qui a travaillé pour un film, que ce soit un producteur, un réalisateur, un ingénieur son.
L'invité à Trappes, oui.
L'invité à Trappes. Ramener l'œuvre à laquelle il a participé. Alors nous, on a ramené En route pour le milliard de Diodo Amadi. Et c'était aussi de défendre cette œuvre, de dire pourquoi on a voulu la ramener, l'importance qu'elle a, et la partager au plus grand nombre des habitants de Trappes et d'ailleurs.
Alors justement, le film que vous avez sélectionné, c'est En route pour le milliard, du réalisateur congolais Diodo Amadi. Et je regarde notre ami Gaël quand je parle de Diodo Amadi, puisque vous l'aviez reçu du côté du Grenier à Sel en 2013 pour son premier film documentaire. Il avait déjà tourné d'autres choses avant, mais c'était son premier film documentaire. On avait fait un petit reportage à l'époque. Du coup, je vous propose de l'écouter et puis on en parle un petit peu avec Gaël. On écoute Diodo Amadi en 2013.
Je m'appelle Diodo Amadi, je suis un Congolais vivant à Kinshasa et je fais des films documentaires. Ça fait 5 ans depuis que je suis dans ce milieu et Atalaku, le film qui vient d'être projeté, est mon premier long métrage, mais mon troisième film en tout. J'avais envie de filmer les élections tout d'abord. Ensuite, je me suis posé la question de comment j'allais le filmer. Et j'ai rencontré des jeunes musiciens, et aussi un pasteur, qui y avait des choses à faire pendant ces périodes-là. Et j'ai décidé de les suivre. Et ça a donné le film que vous avez vu.
Nous sommes en novembre de l'année 2011. Les Congolais sont appelés aux urnes pour élire leur président de la République et leurs députés nationaux. À l'approche du vote, les rues de Kinshasa, la capitale, sont envahies par des atalaku, des crieurs de rue dont le cœur ne bat plus qu'au rythme des cortèges et des meetings populaires.
Voilà, donc un petit retour dans le temps en 2013 avec Dieudo Amadi qui avait présenté donc son premier film documentaire dans le cadre du festival cinéma du réel. Il avait eu un prix d'ailleurs, Gaël, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait. C'était la première fois qu'il participait et qu'il était sélectionné au festival du cinéma du réel. Il a eu un prix et il a été resélectionné l'année d'après. Il a eu le grand prix. C'est assez impressionnant parce que il a eu d'autres films entre-temps. C'est toujours des sujets qui sont un petit peu, Erwin le disait bien, qui nous travaillent un petit peu. Hein, on parle de politique, on parle de corruption, on parle de tout ça. Et là, ce dernier film-là, qui s'appelle donc En route pour le milliard, non seulement il était au Festival de l'USAS, mais il a été sélectionné à Cannes. Donc c'est un sacré chemin quand même.
Alors justement, dites-moi, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film En route pour le milliard? D'abord, ça parle de quoi? Qui peut nous faire le petit résumé en quelques mots? Erwin? Non, Bilal.
Alors, allez, Bilal. En route pour le milliard, c'est un film qui déjà se passe au Congo, pays d'origine de Dieudo Amadi. Ça se passe au village de Kisenagi. On suit le parcours de jeunes mutilés de guerre qui ont subi la guerre des six jours, qui a eu lieu au début des années 2000. Et c'est des personnes qui, du coup, se battent pour avoir réparation auprès de l'État congolais et qui vont, on va suivre leur parcours, qui vont aller jusqu'au Parlement du Congo pour demander réparation et aller voir directement les dirigeants du pays sur place.
Donc on comprend par rapport à ce que je disais, Erwin, c'est un film qui est aussi très fort, parce qu'il y a des témoignages, voilà, c'est des mutilés de guerre. Et il y a tout le combat pour justement faire reconnaître leurs droits, et voilà, En route pour le milliard. Donc le titre, il est un peu, je ne sais pas si on dit ironique, mais voilà.
Alors ils vont littéralement en route pour le milliard, car en fait, il y a eu $1 milliard qui ont été débloqués pour les personnes qui justement subissent la guerre des six jours. C'est un milliard qui, certes, n'est pas que pour les habitants du village de Kisenagi, pour toutes les personnes qui ont subi la guerre. Et ces personnes-là veulent justement leur réparation qui ne leur est toujours pas donnée.
Mmh. Alors du coup, Jenny, est-ce que vous étiez tous d'accord sur ce film? Parce qu'il y a eu du débat, évidemment, pour choisir un film. Vous en avez vu plusieurs. Il y en a un, d'ailleurs, dont Gaël a parlé tout à l'heure et qui est dans la programmation du cinéma Le Grenier à sel. Voilà, comment s'est passée la discussion? Est-ce que vous étiez plutôt d'accord sur ce film?
Oui, on était plutôt d'accord. Et puis, malgré le contexte difficile enfin, que nous a fait Bilal, c'est avant tout, on suit l'histoire d'une, des mutilés de guerre, des rescapés, qui cherchent à obtenir ce qu'il leur est dû. Et malgré le fait qu'il leur manque des membres, enfin... C'est pas présenté de manière à ce qu'on doit les plaindre ou bien faire en sorte qu'ils soient... C'est pas présenté de cette manière, mais c'est plutôt présenté de la manière à ce que... De montrer plutôt leur force, leur combativité, le fait que malgré les années qui se sont écoulées depuis 2000, ils ont continué justement à faire perdurer la mémoire de cet événement et ils ont fondé une association et ils sont membres d'un... Et font des représentations théâtrales justement pour sensibiliser les personnes qu'ils croisent à ce qui leur est arrivé.
Donc c'est ce qui est intéressant dans le film. Voilà, c'est pas un film où on va pleurer sur des personnes à qui manquerait des membres, etc., etc. C'est vraiment le combat qui est au cœur du film, documentaire. Alors du coup, ça vous fait quoi, vous, de participer à la programmation culturelle de la ville de Trappes, Erwin? en se disant que bon, bah, c'est vous qui êtes allé, vous avez choisi, c'est votre choix, hein, on ne vous a pas imposé ce choix, et puis que vous allez pouvoir inviter bah, les trappistes ou même ailleurs, hein, ceux qui nous écoutent, à venir le 26 novembre prochain au Grenier à sel pour voir justement cette, ce film documentaire.
Eh ben, c'est super, et c'est surtout une expérience super enrichissante pour nous, parce que donc déjà on a découvert ce que c'était un festival, donc déjà c'est pas mal. Mmh. Ensuite on fait des actions culturelles à Trappes, donc on est porté par Aurélie notamment, qui a vraiment fait en sorte qu'on participe à par exemple tout ce qui est la communication autour du film. Donc c'est nous qui avons fait le communiqué de presse, on a essayé de voir qui contacter, etc. Donc on a fait un vrai travail et on nous a vraiment poussé à rentrer dans le professionnel. Donc ça a été une expérience super enrichissante, on a découvert beaucoup de choses et on a vraiment travaillé quoi. Donc c'était une expérience super enrichissante.
Il y aura une suite d'ailleurs. Est-ce que une fois que vous avez fait ce premier film, que vous avez fait la diffusion le 26, vous allez continuer à être impliqué dans la programmation culturelle, vous allez peut-être faire d'autres voyages plus tard?
On espère.
c'est un message, ça.
pour l'instant, on est vraiment focalisé sur cette soirée du 26 novembre, parce que c'est vraiment un projet là qui nous tient à cœur. Mais on espère participer à la suite d'autres actions culturelles à Trappes.
Alors justement, oui, Gaël, vas-y.
Je précise quand même qu'ils ne font pas, qu'ils n'ont pas fait que aller au festival et que choisir le film et que le programmer, parce que c'est aussi leur soirée, à tel point que c'est eux qui vont présenter la soirée. Et Dieudo Amadi, le réalisateur, il habite à Kinshasa et on l'aura en direct en visio. Et c'est les jeunes Jacques qui vont discuter avec lui, qui vont présenter à la salle, qui vont être là ce soir-là, qui vont animer la soirée. Mmh. Donc c'est vraiment jusqu'au bout les clés du cinéma quoi.
Donc je barre la question suivante. merci Gaël.
Okay. D'accord.
Non mais j'ai bien. Justement, j'allais vous demander de présenter la soirée en détail et me dire quel est votre rôle, ce que vous allez y faire. Mais merci pour les précisions, Gaël. Du coup, ça à 20h30, le 26 novembre, au cinéma Le Grenier à sel. Allez, on va quand même donner un petit peu envie aux auditrices, aux auditeurs également. Il y aura un petit peu à manger, il y aura un petit after, c'est ça comme on dit. Alors qui nous raconte ça, Bilal?
Oui, en effet, il y aura bien un buffet.
Il faut le répéter ça en général, hein, quand ouais. On va avoir beaucoup de monde.
Venez nombreux.
Dans une soirée, voilà,
pour leur dire. Il y aura un buffet du coup après la projection du film où tout le monde est convié. Alors ce ne sera pas juste une histoire de manger, on pourra discuter du film, vous pourrez nous poser des questions à nous, les jeunes ambassadeurs culturels, mmh. pour avoir plus de détails sur le film, sur qu'est-ce qui s'est passé après, parce qu'après tout, on raconte une vraie histoire, ce n'est pas une fiction. Le film ne raconte pas tout ce qui s'est passé, et on pourra répondre à ces questions.
On pourra même poser des questions peut-être, hein, techniquement, normalement, on pourra poser des questions au réalisateur, qui sera en direct.
Oui, alors ça, ce sera à nous, durant les 20 premières minutes avant la projection du film, on va poser des questions au réalisateur, lui demander son parcours, comment il est arrivé à faire du film, notamment du film documentaire, et aussi qu'est-ce qui lui a donné envie de montrer ces personnes, leur parcours, pourquoi avoir fait justement En route pour le milliard.
Le buffet aura lieu
à l'Étoile d'Or.
À l'Étoile d'Or.
C'est juste à côté.
Petit événement aussi, ça.
Oui, parce que c'est la première fois qu'il y aura un événement là-bas.
Tout à fait.
Donc c'est la rénovation de cette ancienne brasserie, oui. Bar, je sais plus comment le qualifier, qui a été rénovée et qui sera donc qui sera un espèce de café concert dans les semaines, mois à venir, et du coup qui vous accueillera pour le buffet, pour échanger surtout avec les jeunes ambassadrices et ambassadeurs culturels de la ville. Bon, j'avais noté une petite question pour que vous me donniez des petites anecdotes un peu croustillantes de ce qui s'est passé. Allez, il y en a qui va me raconter ça. Ervin, allez. Alors, une petite anecdote de ce qui s'est passé à l'USAS.
Il se trouve qu'à l'aller, quand on est allé en voiture, on a eu des petites alertes dans la voiture.
C'est-à-dire des petites alertes.
Des petites alertes avec marqué AdiBlue. Et on ne savait pas ce que c'était l'AdiBlue. Et on était en plein milieu des montagnes. Il faut savoir que l'USAS, c'est que des virages, c'est vraiment la montagne. Donc on a eu un peu peur et on a calé chez le garagiste. Voilà, donc on n'aurait pas pu aller plus loin et on n'aurait pas pu aller au festival si on n'avait pas compris que bah fallait vite se grouiller et aller au garage.
Voilà, donc vous avez une bonne étoile, vous êtes tombé en panne juste chez le garagiste, ça c'est pratique. Bah merci en tout cas, merci à toutes et tous d'être venus, les jeunes ambassadrices, ambassadeurs culturels de la ville de Trappes, qui vous invitent donc, vraiment, on vous invite, on vous convie à venir le vendredi 26 novembre à 20h30, donc c'est au cinéma, le Grenier à sel à Trappes. Il faut réserver, Gaël, ou est-ce qu'on peut se présenter directement, est-ce qu'il y a un prix d'entrée et tout ça.
Oui, il faut réserver. C'est effectivement une soirée payante. On paye le film, évidemment. Et on peut réserver ou en caisse au cinéma lors d'autres séances ou sur notre site internet cinémagrenierassel.com ou .fr.
Merci. Merci à toutes et tous d'être venus donc pour nous parler de cette soirée, puis de cette petite aventure que vous avez vécue du côté de Lussas en Ardèche. On est un peu en retard. Il est déjà 17h31. Tout de suite, le journal d'actu. À Trappes, les salariés du géant de la logistique en grève contre le transfert de leur activité en Seine-et-Marne. Un mouvement social qui a été lancé hier sur le site yvelinois de l'entreprise QN et Nagel. L'entrepôt va fermer pour être transféré à Lieusaint en Seine-et-Marne. La centaine de travailleurs va être licenciée, faute d'accord avec la direction. La vente du domaine de Grignon à un promoteur suspendu par l'État. La préfecture des Yvelines a annoncé lundi que l'État a renoncé à la cession contestée du site agronomique au promoteur immobilier Altarea Cogedim. Le promoteur prévoyait notamment d'y construire des logements privés. Une première victoire pour le collectif Grignon 2000, les élus locaux et les étudiants d'AgroParisTech. Prochaine étape pour le second semestre 2022, date de lancement d'une nouvelle procédure de cession. Valérie Pécresse était en campagne lundi soir au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. La candidate à la primaire LR pour les présidentielles a rassemblé près de 900 personnes pour présenter son projet pour la France. Pour rappel, le congrès LR choisira son candidat ou sa candidate de droite pour les futures élections présidentielles les 1er et 2 décembre prochains. La fin du port du masque en plein air, ce n'est pas pour tout de suite. Avec la dégradation de la situation sanitaire, le préfet Jean-Jacques Brault a prolongé l'obligation du port du masque sur les marchés, les brocantes et dans les rassemblements publics lundi. L'arrêté qui arrivait à terme ce lundi, donc le 15 novembre, est prolongé jusqu'au 1er février 2022. L'épidémie de Covid repart en effet, l'épidémie de Covid-19 dans tout le pays. Et pour les Yvelines, en un mois, le taux d'incidence a augmenté en passant de 62 cas pour 100 000 habitants le 6 octobre à 83 pour 100 000 habitants le 10 novembre. Le taux de positivité grimpe également de 1,3% le 6 octobre à 3,3% aujourd'hui. C'est plus que la moyenne régionale qui est autour de 2,7%. Sont exonérés pour information du port du masque les enfants de moins de 11 ans, les personnes munies d'une dérogation et celles qui pratiquent une activité sportive. La 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a débuté lundi. Elle se déroulera jusqu'au dimanche 21 novembre. Retrouvez tous les événements organisés dans le cadre de cette semaine à l'adresse suivante www.semaine-emploi-handicap.com. Dernière info sport, Jade Lecor de l'Entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines a remporté le titre de championne de France cadette de cross, c'était ce dimanche à l'occasion du championnat de France de cross à Montauban, dans le Tarn et Garonne. Alors, on va faire le focus de ce journal maintenant avec la première journée départementale des cités éducatives qui s'est déroulée mercredi dernier, le 10 novembre, au Collège Innovant de Mantes-la-Jolie. À l'invitation du préfet pour l'égalité des chances, Raphaël Soudini, des représentants des 5 cités éducatives des Yvelines ont pu présenter leur action aux 200 personnes invitées, une vingtaine d'associations également présente, parmi elles, l'Association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin en Yvelines, avec Hervé Farge, son président, qui nous explique pourquoi l'association a participé à cet événement.
Ça vient du fait que on fait tous ces projets avec la maîtrise de Trappes, mais on pourra en parler éventuellement. Mais disons, le côté cité éducative, c'est que on prenait les enfants à partir, disons, de CE1, CE2 jusqu'en CM2. Mais après, on les perdait de vue, ce qu'on trouvait vraiment dommage. Et puis, grâce à la cité éducative, on a passé un accord avec le collège Gagarine. Et on a déjà commencé l'an dernier, c'est-à-dire que les enfants de l'école Vallon des CM2 de l'école Vallon qui participent au projet systématiquement depuis 3 ans, parce que j'avais prévu le coup déjà un petit peu à l'avance. C'est toujours bien d'avoir quelques coups d'avance. Et donc, on a proposé de faire travailler la chorale du collège Gagarine avec, en partenariat avec la maîtrise de Trappes, et donc la chef de chœur de la maîtrise de Trappes. Et du coup, ils ont chanté ensemble les airs les plus complexes de l'opéra l'an dernier, Carmina Burana. Et ça a superbement bien marché. Et donc ça, c'était dans le cadre de la Cité éducative, ce qui a permis de rémunérer les intervenantes musicales. Et on le reconduit de ce fait cette année. Et alors, on va avoir en fait ce chœur qui a chanté l'an dernier au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, Carmina Burana. Et donc, à 16h, c'est eux, donc les enfants de la chorale de Gagarine et de la maîtrise de Trappes, ensemble, qui vont chanter sous la direction de la chef de chœur, comme l'an dernier.
Ici, à Mantes-la-Jolie, on connaît une journée innovante dans le cadre de ces journées départementales.
Absolument, dans Merci. Ce cadre-là.
Il est 17h36, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4, l'émission qui vous parle de l'actualité de Saint-Quentin en Yvelines et ses environs. Allez, une dernière pause musicale dans cette émission et on revient juste après avec nos secondes invités. A tout de suite.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les bastons de regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Michel grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face. Poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo. Faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts, ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants. Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence. Se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes. Ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout en...
Gaël Faye sur les ondes de Marmite FM 88.4. Allez, sans transition, 17h, passé de 40 minutes sur les ondes de Marmite FM 88.4. Tout de suite, on reçoit nos seconds invités.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
C'est avec plaisir que nous allons aujourd'hui vous parler du 15e Festival Alimentaire, un festival qui a déjà commencé le 15 octobre dernier et qui se poursuivra jusqu'au 30 novembre. Nous recevons donc des organisateurs, des participants de cet événement à Saint-Quentin en Yvelines. Nous commençons avec Tania Oblasnet, qui est membre d'Artisans du Monde Saint-Quentin en Yvelines et de Ski en Transition. Bonjour Tania.
Bonjour Nouradine.
Également avec nous Philippe Tellier, qui est membre du CCF des Terres Solidaires, de Ski en Transition également, et d'Église Verte. Bonjour Philippe.
Bonjour Nouradine.
Et enfin, Laurent Sainte-Fargarneau, qui est responsable du groupe local du plateau de Saclay pour Terre de Liens. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, ces projections de débat sont organisées donc par vous, notamment. Vous nous direz également qui a participé à cette organisation de ce festival alimentaire. Vous êtes donc avec nous pour nous présenter les deux projections de débat qui auront lieu les 18 et 25 novembre prochains à Saint-Quentin en Yvelines, dans le cadre de ce festival. Mais d'abord, peut-être pour les auditrices, les auditeurs qui n'ont pas eu la chance de vous écouter, hein, Tania, parce que vous étiez venu présenter la première projection débat au mois d'octobre. Alors expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste ce festival alimentaire.
Ben, ce festival, justement, le mot alimentaire est presque un jeu de mots et ça relie bien l'alimentation, la nourriture à l'endroit d'où elle sort. C'est extrêmement important de nos jours de savoir, je trouve, la transparence, l'origine de ce que nous ingurgitons. Je ne vais pas faire tout un cours sur la malbouffe qui est proposée, mais dans la mesure où nous avons ce festival annuel qui dure un mois et demi, organisé par le CFSI, Comité français pour la solidarité internationale, c'est vraiment une occasion de réveiller le public, de lui rappeler à quel point les circuits courts, une agriculture familiale de petite taille, vertueuse, sans pesticides et compagnie, est importante pour nous tous, en France comme dans le monde entier.
Alors, peut-être intéressant pour nos auditrices, nos auditeurs, de vous entendre, présenter un petit peu aussi vos associations, hein, puisqu'on a parlé de plusieurs associations, que ce soit Artisans du Monde, qui est connu quand même à Saint-Quentin-en-Yvelines avec Ski en Transition, Église Verte, le CCFD Terre Solidaire, ou peut-être Terre de Liens. Alors, qui commence ?
Terre de Liens.
Allez, Terre de Liens.
Terre de Liens, c'est un ensemble qui comprend trois parties, parce que pour préserver la terre agricole, il faut d'abord s'assurer de la pérennité des exploitations, il faut assurer la transmission entre les générations et il faut avoir de l'argent. Et donc Terre de Liens s'est constituée autour de cet ensemble, comprend à la fois une fondation qui a pour but de recevoir de l'argent, des legs aussi, éventuellement des legs en terre même, une foncière qui est constituée de parts et qui rentre dans l'économie sociale et solidaire, puisque chacun peut souscrire une part à la foncière Terre de Liens, et c'est un engagement qui est réversible, c'est un engagement que Terre de Liens demande de prendre pour 7 ans, mais on peut récupérer son capital au bout d'une période. Et puis Terre de Liens, c'est donc un trépied pour bien tenir debout. Et le troisième pied du trépied, c'est l'association. C'est une association nationale déclinée par région pour participer, pour aider à la participation citoyenne, c'est-à-dire que dans chaque région, les groupes de citoyens qui se mobilisent autour d'un projet peuvent venir le soutenir, peuvent même l'animer et participer aussi à la veille foncière, à la connaissance des fermes qui partent en déshérence et à la transmission, à la remontée aussi des informations depuis les exploitants qui vont bientôt prendre leur retraite vers l'installation des jeunes.
Philippe ?
Oui, alors, je vais commencer peut-être par le collectif Ski Pousse, qui contient en son sein 31 associations, dont Sky en Transition, dont fait partie Tania. Alors, Ski Pousse a été créé en 2017-18, compte en son sein la plupart des AMAP de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi d'autres associations comme Communherbe, comme
La Bicyclette.
La Bicyclette, oui, voilà. Diverses associations qui travaillent autour de justement l'agriculture urbaine et de proximité, ainsi que l'alimentation de qualité, avec pour enjeu de rester solidaire avec les populations les plus défavorisées pour qu'elles aient accès aussi également à cette alimentation de proximité. Et donc ce collectif Ce qui pousse a déjà plusieurs actions à son arc, si je puis dire, notamment la défense de la vocation agricole de la ferme de Bulloyer, qui maintenant est bien partie sur des rails, à Magny-les-Hameaux, qui maintenant est devenue ferme-école, mais pendant un temps, on n'était pas sûr du tout de la bonne destination agricole de cette ferme, qui pouvait être revendue ou tout au moins achetée par un promoteur immobilier. On travaille aussi la veille foncière. On travaille aussi actuellement la mise en route d'un verger participatif sur le quartier de la Sourderie à Montigny. Et on travaille aussi des rendez-vous avec les maires des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines pour voir ce qu'il en est du pacte pour la transition qui a été signé au moment des municipales par les candidats de l'époque. Donc ce collectif Ce qui pousse est particulièrement intéressé par le devenir de l'agriculture locale à travers ce festival alimentaire. Et il était naturel qu'il participe à cette organisation de ciné-débat. Voilà pour au moins une des trois associations dont je fais partie.
Oui. Alors, un petit mot pour compléter peut-être, Tania.
Eh bien, justement, nous représentons des associations et des collectifs divers. Et ce qui nous réunit, ce que nous avons en commun, ce sont des valeurs et des désirs pour aujourd'hui et pour demain. Et justement, en cherchant quel film projeter, le Festival alimentaire tous les ans en propose 9. Donc il y a l'embarras du choix. Il y a 2 ans, il y a eu 2 projections sur Montigny. Cette année sur Ski, il y en a 3. Et on a essayé de ne pas tout garder dans les mêmes communes. On a failli avoir une projection à La Verrière, mais il y a eu un problème technique de manque de régisseur au Scarabée, temporairement. Bon, tout le monde voulait Douce France, parce que ça parle des jeunes de 17 ans, et il est important de sensibiliser cette génération-là, qui l'est déjà grâce à Greta Thunberg et tous les mouvements des Vendredis pour l'avenir, Fridays for Future. Et puis, 2 d'entre nous présents se sont dit « oui, mais il manque quelque chose, il manque la dimension internationale ». Et donc, du coup, on a réussi à projeter et l'Arbre Providence, et ce jeudi sur le champ, pour mettre en valeur ce que fait le CCFD ou Artisans du Monde dans les pays du Sud, comme en France.
Donc ça, sur le champ, c'est projeté au cinéma Ciné 7 d'Elancourt, donc ce jeudi, vous l'avez dit Tania, jeudi 18 novembre à 20h15. Avant de parler de ce film documentaire, je vous propose de découvrir la bande-annonce.
Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué los que producen comida son los que son los más pobres?
Se demande vraiment c'est quels sont les mécanismes utilisés pour produire des oignons qui voyagent et qui se retrouvent ici dans nos assiettes à moindre coût que ce qui est produit ici, quoi.
Pocos lo que cultivamos, lo que es agroecología.
On ne peut pas séparer notre vie privée de notre métier, c'est un tout, quoi.
Usted habrá podido escuchar que le está dando impulso al tema de la agricultura familiar.
Si l'insecte a eu le courage de séjourner sur cette feuille, c'est qu'elle est bonne pour moi également.
Ici, nous, ce qui nous permet de vivre et de pouvoir dégager le salaire de 4 personnes, c'est qu'on travaille en circuit court.
A donde voy, trabajo con el productor y trabajo con lo que el lugar me brinda.
Tous les clients sont là à l'ouverture du magasin, donc ça veut dire qu'on est dans le bon, peut-être dans ce qu'on fait.
Le rôle du consommateur individuel quand il fait son choix de consommation, ça a la valeur d'un vote.
Nous avons le Jack B. Little. Si vous téléphonez avant 10h20, vous avez deux Jack B. Little pour le prix d'un.
Voilà donc pour la bande-annonce de ce film documentaire sur le champ qui sera donc projeté au cinéma 7, Ciné 7 d'Elancourt le jeudi 18 novembre à 20h15. Alors, est-ce qu'on pourrait détailler un petit peu, un peu plus en profondeur, de quoi parle ce film en quelques mots?
Ça se passe à 4 endroits différents. Le Pérou, le Burkina Faso, la France. Et pourquoi je ne trouve pas le quatrième? Peu importe. Donc, il y a une analogie parfaite entre la situation des paysans dans ces pays et, comme par hasard, pour vivre de leur métier, pour vivre de leur terre, ils appliquent les mêmes techniques agricoles. Et pour faire le lien entre ce qui peut se faire loin d'ici et ici, après le film, nous aurons la présence d'un agriculteur du NAMAP local d'Elancourt qui va venir avec d'autres collègues de Magny. Donc, il y aura des gens qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent d'agriculture familiale. On va décliner les termes pour qu'on comprenne exactement de quoi on parle. Et que c'est une question qui nous touche, nous, tous, tous les jours. Et pas uniquement le Burkina Faso ou un lointain pays comme le Pérou. Et pour le film, ça ne s'entend pas à la radio, mais il y a des sous-titres quand il parle en espagnol.
Philippe Tellier.
Je voulais compléter ce que disait Tania. Alors là, je prends ma casquette de membre bénévole du CCFD Terre Solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre Solidaire, qui œuvre depuis 1961, c'est son 60e anniversaire, qui œuvre donc pour la solidarité internationale sur des thèmes comme la souveraineté alimentaire, puisque derrière la bande-annonce, c'est bien ce problème de souveraineté alimentaire qui est posé dans des pays où se trouvent des paysans qui sont confrontés à une concurrence quelque part déloyale de produits qui viennent des pays occidentaux à moindre coût que ce qu'ils peuvent produire sur place. Donc il y a une sorte d'injustice flagrante.
Un paradoxe même, on l'appelle le paradoxe de la faim.
Exactement. Et ça pousse ces paysans à quitter la campagne pour aller grossir les bidonvilles et grossir surtout des quartiers de misère, hein, puisque paradoxalement, en effet, ce sont les paysans qui souffrent le plus de la faim dans le monde. Et donc, par les choix que l'on fait dans notre alimentation, c'est ce qui a été dit dans la bande-annonce, on a quelque part une sorte de bulletin de vote à travers nos choix alimentaires pour peut-être favoriser une agriculture de proximité chez nous et défavoriser une agriculture industrielle qui brade ce dont elle ne veut pas dans les pays du Sud. Et en rectifiant, je dirais, cet avenir de l'agriculture chez nous, on aide aussi les pays à se développer et on évite justement peut-être beaucoup de personnes à migrer jusqu'à nous parce qu'elles sont désespérées et elles ne trouvent pas d'avenir là où elles sont, alors qu'elles ont toutes les ressources pour le faire. Et donc le CCFD Terre Solidaire a énormément de choses à dire. Enfin, c'est pour ça que c'est un organisme qui agit sur 700 projets, dont beaucoup sont portés vers l'agroécologie, vers le soutien des communautés paysannes là-bas. Hein. Mais ce qui se passe là-bas, ça dépend aussi de nos choix ici. Donc il y a une relation profonde entre notre vécu au quotidien et l'impact que ça peut avoir dans ces pays du Sud. Donc,
pour Artisans du Monde, au niveau du soutien des petits producteurs défavorisés, surtout dans le domaine de l'agriculture, on fait à peu près la même chose, oui. Sauf qu'on vend leur production sur place.
C'est ça.
Hein. Donc, on évite le dumping, qui est l'exemple que tu donnais, Philippe. Oui. Et on essaye de sensibiliser notre entourage ou les spectateurs d'un film pour qu'ils deviennent consomme-acteurs et non subissants de la pub.
Voilà. Je terminerai en disant que le CCFD a agi de trois façons, un peu comme le trépied évoqué tout à l'heure par au niveau de l'association
Terre de Liens.
C'est-à-dire que le CCFD s'appuie d'abord sur le partenariat, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires où les projets qu'ils ont décidés eux-mêmes sont soutenus, choisis et soutenus par le CCFD, comme des projets sur l'agroécologie, par exemple. Le deuxième pilier, c'est le plaidoyer, c'est-à-dire qu'on rencontre des élus, des responsables donc de la vie collective et politique chez nous pour essayer de faire changer les lois. Et par exemple, on a pu faire évoluer des lois sur l'économie sociale et solidaire.
Avec
Artisans du Monde, bien sûr. Et le troisième pilier, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et donc, avec ces trois piliers, eh bien, on essaye de faire avancer, la justice internationale, en tout cas envers ces communautés.
Après, ce qui a peut-être également intéressé le comité de sélection qui a sélectionné ce film, c'est peut-être la pluralité aussi des initiatives qui sont proposées, avec des solutions vraiment concrètes aux problèmes qui sont rencontrés. Alors, les infos pratiques pour celles et ceux qui voudraient participer à cette projection débat, donc sur le champ, ce jeudi 18 novembre à 20h15. Comment on fait pour s'inscrire, pour participer? Est-ce que c'est payant, gratuit?
On vient, c'est un cinéma, ils exigent le pass sanitaire et le masque, comme dans tous les cinémas. Par contre, le festival alimentaire est destiné juste à un but plus éducatif, de sensibilisation. Il n'y a pas de billetterie. Par contre, nous avons à dédommager le projectionniste. On passera le chapeau.
Voilà, donc c'est une participation au chapeau, comme on dit.
Oui, et je trouve que c'est important aussi qu'un public participe,
ouais.
Mette la main à la poche, même pour une petite somme.
La main à la patte et la main à la poche. Voilà, merci à nos invités. On retrouve la suite de cette émission enregistrée hier, lundi à 17h30. Allez, tout de suite, la Minute Conso de Pierre Joanet. La Minute Consommateur avec Pierre Joanet.
Les commandes sur le web sont bien pratiques, mais ont pour point faible les incidents de la livraison. Même si cela n'arrive pas dans tous les cas, les retards ou les dégradations motivent des avis réservés de la part des clients. Que choisir à consulter ses lecteurs sur le sujet ? Alors les consommateurs choisissent assez souvent le retrait en point relais plutôt que la délivrance à domicile pour éviter de rester attendre chez soi et profiter d'un professionnel proche ou sur un parcours quotidien. Le casier en libre-service rencontre aussi du succès. C'est un procédé simple d'accès, très sécurisé, disponible à tout moment avec le code de verrouillage exclusif remis par l'expéditeur. Les incidents comme les retards ou les dégradations sont plus fréquents dans la livraison à domicile et très rares pour les casiers. Avec les points relais, les destinataires subissent tout de même des erreurs de distribution, remise dans un autre lieu de distribution, une perte de colis ou un retour prématuré avant le retrait. L'imprévu est le fléau de la livraison au domicile. Le trafic cause des retards sur l'horaire ou la date prévue. L'erreur d'adresse ou l'absence du destinataire crée des malentendus insolubles quand ce n'est pas la sonnette ou la boîte à lettres qui pose problème. En définitive, moins de 80% des consommateurs interrogés sont satisfaits de la livraison d'une commande en ligne. Conformément à ce qui précède, la formule des casiers recueille le plus de satisfaction puisqu'il n'y a guère de cause d'incident. Pour les autres modes, les clients déplorent principalement les retards ou des informations imprécises. Quant aux dégradations, il faut sans doute rappeler que le destinataire n'a aucune raison d'adresser sa réclamation au transporteur. Dans la vente à distance, le vendeur est seul responsable de la bonne exécution de la commande, livraison comprise.
Marmite fait son actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Ronan à la technique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau direct. Bonne soirée.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse.